Bonjour, bienvenue sur notre chronique Le Bit et le Couteau du Theta Lab.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on a Alex et moi-même et nous avons en spécial guest star Stéphanie qui va venir nous parler du Burning Man. Le pad avant.
On rappelle le pad, ouais. Donc là, si vous voulez participer à l'émission ou retrouver les liens dans des sites dont on parle, vous pouvez aller sur canalsud.thetalab.org.
On va mettre des liens complémentaires, vous pouvez poser des questions.
Retrouver le générique.
Voilà, c'est un traitement de texte en ligne collaboratif, donc tout le monde peut participer. Donc oui, le générique c'était Homme de Edward Sharp and the Magnetic Zero, c'était pour introduire le Burning Man dont va nous parler Stéphanie, puisqu'il y a eu une célèbre vidéo du Burning Man où il y avait en générique, en fond sonore, cette chanson. On fait quoi? On commence par le Burning Man ou l'actu? Non, l'actu. Allez, l'actu. Je suis le seul à avoir préparé quelque chose. Ok. Alors, déjà, à l'occasion du 12 mars, c'était la journée mondiale contre la cybercensure. Il y a Reporters sans frontières qui a sorti un rapport, comme chaque année, sur les pays ennemis d'Internet. Donc, faut savoir que en ce moment, il y a 180 net citoyens qui sont enfermés parce qu'ils ont mis des propos sur Internet. Et donc, Reporters sans frontières, dans sa liste des ennemis d'Internet, il y a la Syrie, la Chine, l'Iran, le Bahreïn et le Vietnam. Donc, eux, c'est les 5, c'est le pire de ce qu'il peut y avoir, quoi. Donc, il y a la Chine qui a la grande muraille électronique. Donc, elle s'est fait un système où, tip-top, il n'y a rien qui peut filtrer tout. C'est super méga au point. Il y a, par exemple, le régime iranien qui, eux, ils ont fait... En fait, dès qu'ils ont mis en place leur réseau Internet, eux, ils ont pensé à tout verrouiller. Ils sont pas bêtes. Et d'ailleurs, il y a la Syrie où Reporters sans frontières vient de publier un appel d'offres lancé en 99 qui montre en fait que le réseau syrien a dès le départ intégré des fonctionnalités de surveillance et de filtrage. Donc à part les pays ennemis d'Internet, bien sûr, c'est tous ces pays-là, ils s'appuient sur des technologies et des technologies qui sont faites par des États occidentaux comme la France, Cocorico. Donc il y a 5 entreprises ennemies d'Internet, il y a Gamma, Trovicor, Hacking Team, Bluecoat et Cocorico. Il y a Amesis qui est une filiale de Bull et qui est une entreprise française.
Qui s'appelle toujours Amesis ? Ils n'ont pas changé de nom
depuis... Non. Ah oui, d'ailleurs, petit appel, si vous cherchez du travail, Amesis recrute sur Toulouse. Donc voilà, vous pouvez avoir sur leur annonce pour travailler sur leur fabuleux logiciel de surveillance. Voilà, c'était la petite partie. J'ai vu l'annonce, donc j'ai hésité à candidater.
Ce serait bien que quelqu'un y aille pour voir ce qui se passe.
En sous-marin, tu crois que c'est...
Ouais, c'est... Maintenant qu'ils sont au courant qu'on les saurait.
Ouais, mais après, ouais, s'il faut, tu ne voudrais même pas travailler sur ça ou j'en sais rien.
Surveiller les gens qui surveillent, ce serait pas mal.
Ouais, ce serait pas mal. Mmh. Ouais, j'enverrai ma candidature, je ferai mon CV, on verra bien. Donc, par exemple, il y a Trovicor, qui a permis à la famille royale du Bahreïn d'espionner et d'arrêter des acteurs de l'information. En Syrie, les produits des pays, donc Deep Packet Inspection. Tu sais ce que c'est, Stéphanie?
Non.
C'est pas ce que c'est. Pourtant, je l'ai répété, mais un millier de fois, tu écoutes jamais.
Exactement.
Donc, en fait, Deep Packet Inspection, pour faire une image, c'est comme si ton facteur, il ouvrait ton courrier pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est tous les paquets qui passent sur le réseau d'Internet. Ben, c'est comme s'il y avait un opérateur qui allait ouvrir les paquets et regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Donc pour faire de la censure ou pour tout simplement dire, par exemple, on va favoriser tout ce qui est Facebook. Tu prends un forfait Facebook et on favorise toutes tes connexions sur Facebook au détriment d'une autre d'autres connexions.
Comme Orange qui favorise Dailymotion, non? Il n'y a pas une histoire comme ça?
Ils avaient demandé si on était volontaire pour faire du Deep Packet Inspection pour se recevoir de la pub. C'était ça, je crois. Voilà, donc ça c'est nous, nous, enfin nous, le Theta Lab et d'autres organisations, on est contre ça. Ça s'appelle la neutralité du réseau, c'est-à-dire ne pas favoriser un destinataire plutôt qu'un autre et ne pas contrôler ce qui passe par le réseau. Du coup, oui, et donc pour revenir sur Amesis, il y a, comment il s'appelle, Jean-Marc Manac, qui est Manache ou Manac, je ne sais pas comment on dit, qui avait soulevé le lièvre d'Amesis et qui en a fait un bouquin. Donc je vous invite à aller sur son blog du Monde qui s'appelle Bug Browser, et il a mis en ligne un lien vers le livre qu'il avait fait avec Oni qui s'appelait Au pays de Candy, et où c'est assez édifiant, où de nouveaux documents étaient mis à jour, où il y a par exemple, on voit que Takieddine, qui était l'intermédiaire entre la France et la Libye, il y a Claude Guéant qui est intervenu, et ça fait aucun doute, quoi. Il y a eu des lettres, enfin bref, c'est assez sale, quoi.
Il y avait un reportage aussi sur Canal+ qui était intéressant, il faut que je retrouve le nom. Mais...
Traqué, non ?
Je ne sais plus... Donc un reportage qui parlait de Takieddine, Amesis et toutes les relations avec la Libye à l'époque, sur le montage des suivis des vendeurs d'armes numériques en Libye. Traqué, oui, c'est bien ça.
Ouais,
je viens de retrouver le lien.
Donc, bon, pour l'instant, c'est tous ces logiciels sont... dans des pays, des dictatures, mais de plus en plus en France ou dans nos pays occidentaux qui sont censés être des démocraties, des républiques, machin, bidule chouette, ben on a de plus en plus une montée de ces outils, quoi. Il y a eu, mettons aux USA, il y a eu PIPA, chez nous on a eu l'OPSI qui a introduit ça.
L'OPSI 2, oui, qui a introduit pas mal d'outils, mais qui sont pas encore disponibles.
Ouais, ou le blacklistage de sites, donc ouais, bon,
ils sont
faut
en période
pas...
de test dans des pays étrangers avant de les appliquer ici.
Donc voilà, il faut être vigilant sur ça. Donc pareil pour continuer sur ça. En Iran, eux ils sont tranquilles parce qu'en fait ils ont décidé d'interdire tout ce qui est VPN. Donc Alex, toi tu sais bien expliquer ce que c'est un VPN.
Un VPN, c'est une connexion sécurisée avec un autre ordinateur. Donc en général, on s'en sert, donc suite à la DOPI, il y a pas mal de gens qui s'en sont servis, par exemple, pour se connecter à un ordinateur en Suisse et faire leur sortie de connexion Internet par la Suisse. Donc ouais. Ça évite que les services qui suivent les connexions pour la DOPI reconnaissent votre adresse IP française et vous envoient une lettre ou...
Ouais, là, c'est pas utilisé pour ça. En Iran, par exemple, je pense pas qu'ils l'utilisent pour Adopi, mais...
C'est un des exemples
qu'ils utilisent
c'est un VPN, mais ça pourrait être quand vous êtes connecté à un Wi-Fi...
Tor, c'est un VPN ?
C'est autre chose que VPN, c'est Tor. Désolé.
C'est rien,
oui, le VPN, c'est juste une connexion sécurisée avec un ordinateur à qui vous faites confiance. Voilà.
D'accord. Et
Tor, c'est un réseau alternatif Internet.
D'accord.
Auquel vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance.
Ouais. Et Tor, ouais. Ok. On va pas parler de Silk Road, on en parlera une autre fois, non ?
Ouais. Okay.
Voilà. En Iran, eux, ils ont décidé d'interdire tout ça. Et l'effet collatéral, c'est que tous les services de Google ou de Skype, ils sont indisponibles. Donc, ils ont dit qu'ils allaient se débrouiller pour pouvoir interdire les VPN, mais garder quand même des services du style Google, Skype, tout ça. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça bloque ces services-là.
Par rapport à l'Iran et Tor, il y a des grosses affaires aussi où c'est un peu la course à l'armement entre les développeurs de Tor qui sont en mode open source et qui essayent de proposer des solutions sécurisées pour les Iraniens, et le gouvernement iranien qui essaye de poser en même temps des pièges pour bloquer toutes les connexions à Tor. Mais les VPN sont possiblement plus faciles à cacher, hein. Je sais pas comment ils s'y prennent, mais je sais que Tor a des solutions pour justement passer outre les blocages nationaux comme fait l'Iran.
D'accord. Bon, on continue 5 minutes. Moi, je voulais parler un peu des VPN, pas des VPN, des DRM. Donc, tu sais ce que c'est un DRM ?
Non plus. Oh là là.
C'est le Digital Right Management. En fait, c'est un dispositif de sécurité que tu peux avoir sur un CD, un jeu vidéo. Ça, on avait beaucoup entendu parler quand il y en avait eu sur les CD audio qu'on ne pouvait pas mettre dans l'ordinateur ou sur des simples autoradios. Donc, c'est le fait de bloquer une utilisation d'un logiciel. Donc, ça peut être si tu l'as pas payé, si tu n'as pas la clé, ou ça limitait l'utilisation un certain nombre de fois. Et donc, moi, j'étais un très grand fan de SimCity. Le premier SimCity,
hein. Ah,
sur 386 en couleur monochrome.
Sur Atari, même.
Ah là là là. Mm. Et donc là, il y a SimCity 5 qui est sorti.
Okay, qui une grosse campagne de pub depuis un an. Plus
voilà,
un an,
et qui était assez prometteur et qui est édité par Electronic Arts. Mais eux, en fait, ils aiment bien Electronic Arts mettre en place des DRM. Et donc là, en fait, ce jeu, si on veut y jouer, il faut obligatoirement avoir une connexion Internet et être connecté à leur serveur. Et donc, après le lancement, en fait, pendant des jours et des jours, personne n'a pu y jouer parce que les serveurs étaient saturés, il y avait des problèmes de connexion, donc tout à fait lamentable. Et c'est pour dire que, voilà, les DRM les ont desservis parce que les gens, je pense pas qu'ils vont acheter SimCity 6. Enfin, faudrait.
Même le 5, là, il y a beaucoup de gens qui essayent de se le faire rembourser.
Ouais, voilà.
Il y a des grosses campagnes de consommateurs anti-trucs.
Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre. Il y a un patch d'une équipe de crackers qui s'appelle Skidrow qui va permettre, en fait, de jouer offline. Donc ça fait partie des choses de pousser les gens à pirater ce qui leur appartient pour pouvoir au moins les utiliser, quoi, jouer au jeu, quoi.
Sauf que là le contrat de vente, c'est pas quelque chose qui t'appartient, c'est vraiment de la location. Tu fais de la location sur ce jeu là
en plus
tu payes 50 euros pour louer le jeu tant que les serveurs d'Electronic Arts tournent, parce que forcément à un moment ils vont couper leur serveur et tu pourras plus jouer au jeu si t'as pas le crack qui va avec, quoi.
Ouais, c'est comme le Minitel, hein, finalement.
Ouais. Tu peux plus utiliser le Minitel.
Et donc, pareil, dans la même ordre d'idées, les DRM, il y a un petit truc rigolo, il y a des designers qui, en fait, ont démontré la débilité du DRM. Ça se dit pas ce que je viens de dire, mais bon. En créant une chaise DRM. Et bien, en fait, la chaise DRM, au bout de 8 personnes qui s'assoient sur la chaise, et bien, elle s'autodétruit elle-même, quoi. C'est un petit truc rigolo. Oui, ben donc, en parlant justement de SimCity, voilà, je voulais rappeler, il y a un blog qui s'appelle Je voulais pas pirater, qui est un peu. Il n'y a plus trop de contenu qui est mis dessus. Ça s'est arrêté en novembre 2012. Alors, je sais pas, peut-être la personne n'était plus motivée. Et en fait, c'est des gens qui vont raconter leur expérience qu'ils ont eue en essayant de ne pas pirater. Donc, par exemple, là, il y a... Je voulais pas pirater l'EP de Saint John parce que j'aime le single, mais aussi parce que j'aime bien passer de la musique de suffisamment bonne qualité en soirée. Du coup, je suis d'abord allé sur l'iTunes Store en suivant le lien situé sous la vidéo YouTube. Et là, surprise, il n'est disponible que dans le store suédois. Donc, c'est plein d'expériences comme ça. Je voulais pas pirater Esprit Criminel, une des trop rares séries à faire partie des avant-premières sur iTunes. Seulement, voilà, aucune saison avant la 6e n'est disponible en VOST. Donc, c'est-à-dire en original sous-titré, quoi. Et donc, c'est ainsi de suite, c'est des expériences comme ça. Et moi, mon expérience, c'est que quand je mets un DVD d'un n'importe quel Walt Disney à ma fille, ben d'abord, on me dit qu'il ne faut pas pirater, que ce n'est pas bien. J'ai une pub en me disant que pirater, c'est comme voler un sac ou voler une voiture. Puis après, j'ai des bandes annonces que je peux pas passer. Puis après, j'ai une super démo qui me fait arriver à un menu. Et après, j'arrive enfin à lancer le DVD au bout de 5 minutes. Et là, hop, j'ai encore une autre démo qui m'amène sur le dessin animé. Donc, pendant 5 minutes, je suis devant mon écran en attendant. Alors que quand je lance mon DivX, je clique sur mon fichier et le film se lance automatiquement. Quoi. Au DVD, je lui demande que ça, c'est de me lancer le film. Après, tout ce qui est pub, bonus, tout ça, on s'en fout. Voilà. On va faire une petite coupure musicale et on va lancer, je ne sais pas. C'est la surprise.
On va lancer Bonobo.
Allez. Bon retour sur le bit et le couteau. Donc c'était Cyrus de Bonomo, qui est le premier single de son prochain album. Et donc avec Stéphanie, on va parler du Burning Man. Donc bon, moi je sais ce que c'est.
Oui, bonjour.
Donc qu'est-ce que le Burning Man?
Alors, la question est toujours un petit peu difficile quand les gens me la posent, parce que je suis là, c'est pas vraiment un festival, c'est pas vraiment un rassemblement, c'est quelque chose entre les deux. Donc c'est 50 000 personnes, 60 000 personnes cette année qui décident d'aller se retrouver dans un désert au milieu du Nevada, avec aucune des commodités du quotidien. Donc il faut tout s'amener, de quoi manger, de l'eau, un hébergement, il y a des tempêtes de sable, donc voilà, c'est
ouais,
ça paraît un peu bizarre en général.
Il y a un certain nombre de règles à respecter quand on va au Burning Man.
Oui, alors je suis mauvaise, je les connais pas toutes par cœur, mais effectivement il y en a une dizaine, et c'est je pense notamment à tout ce qui est ne pas laisser de traces, donc les gens sont vraiment censés rembarquer tout ce qu'ils ont amené.
C'est un festival
faire
écolo.
Du nettoyage à la fin. Je n'appellerai pas ça écolo malgré tout, si on est vraiment honnête, puisque les gens qui ont des. Le principe, c'est de faire quelques milliers de kilomètres en emmenant tout ce qu'il faut pour camper, monter des structures, monter des installations artistiques au milieu du désert, en brûler. C'est pas écologique.
D'accord, il faut juste nettoyer l'espace après.
Malgré tout, l'idée est de ne pas laisser d'empreintes sur cet environnement naturel un petit peu particulier, puisque c'est le lit d'un ancien lac. Salé, ouais. C'est un sol qui est très basique, la poussière reste collée aux vêtements pendant des semaines après, et c'est protégé. C'est au milieu d'une zone de réserve indienne.
D'accord. Et on y fait quoi là-bas?
Un peu de tout. Là aussi, la question est très vaste. Pour certains, ce sera vraiment juste une rave party. Pendant une semaine, ils vont finir la tête à l'envers, ils n'auront pas vu grand-chose d'autre.
Ouais.
C'est pas l'intérêt que moi j'y ai trouvé, sans jugement aucun. Mais Burning Man, c'est aussi, il me semble que c'est à peu près 150 grandes installations artistiques dans cet environnement particulier, en plus qui est le désert, puisque la configuration du site, c'est qu'il est circulaire et ça fait comme une espèce de fer à cheval qui est la zone de campement, l'endroit où les gens vont installer leur camp, et tout le reste, c'est une zone ouverte avec donc des installations artistiques que les gens viennent installer.
D'accord, et donc c'est 60 000 personnes.
Ça va être 60 000 personnes cette année, la jauge a un peu augmenté. D'accord.
C'est l'édition numéro combien cette année?
Bonne question, ils ont fêté leurs 25 ans, je pense, il y a déjà quelques années.
Ça a commencé en 86.
86.
Ouais, ça tu as l'historique du truc.
Oui. Ça ressemble un peu au Boom Festival, non? Version portugais.
Pour avoir fait le Boom cet été, non, pas forcément, non. Pour moi, il y a vraiment... Le Boom, il y avait quand même une grosse dimension sur la musique. Il y a quelques installations artistiques, mais c'est des choses qui sont faites par des gens qui sont rémunérés pour ça, qui ne sont pas forcément les festivaliers. Les festivaliers, ils viennent et ils consomment un produit, pour moi. Il y avait pas mal de commerce aussi sur le Boom, j'avais trouvé qu'il y en avait beaucoup. Burning Man, il ne se vend rien sur le site. Tout ce qui est logo, commerciaux, etc. sont complètement interdits. Donc même quelqu'un qui va venir avec un camion de location, on va lui demander qu'il ait masqué le logo qu'il y avait dessus, que ce soit pas visible. La seule chose qui se vend, c'est de la glace, parce que ça permet de conserver la nourriture qu'on amène dans des glacières, parce que c'est un désert, donc la journée, sinon, ça tiendrait pas deux jours. Et ils vendent du café et du thé dans un lieu qui est en plein centre du festival.
C'est du do-it-yourself?
C'est du do-it-yourself. L'idée, en théorie, l'idée, c'est que chacun est participant à sa façon et à sa mesure. Ça n'empêchera pas forcément que les gens qui viennent, ils ne vont pas être mis dehors à coups de pied si réellement ils sont que dans une consommation de l'événement. Mais ça donne vraiment une atmosphère particulière, parce que la plupart des gens, ils vont avec cette idée-là. C'est ce qui fait qu'ils vont faire tous ces kilomètres, investir du temps et de l'argent là-dedans. Et chacun va essayer de contribuer. Alors il y a les installations artistiques, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi bien faire à manger à ses voisins. Il y a un camp, je sais, qui nourrit tous les ans les artistes qui montent les installations, par exemple. Il y a des camps de massage, de méditation, de danse, un peu tout et n'importe quoi. Je dirais qu'on peut... Je pense qu'on peut trouver tout ce qui peut se faire d'un petit peu alternatif aux États-Unis de représenter, ce qui donne un panel extrêmement large.
C'est un peu Mad Max version teuf, quoi.
Ça pourrait avoir un désert de Mad Max parfois. Ça pourrait faire un peu camp de réfugiés aussi, avec toutes ces structures que les gens se montent un peu comme ils peuvent.
Il y a une radio ou pas? une radio locale, enfin une radio qui est montée
radio,
pour l'événement.
De mémoire, il y a une radio, oui.
Donc quand même, c'est des gens qui arrivent avec du matos, quoi.
Oui, il y a un réseau GSM aussi qui est monté par les mêmes personnes qui montent le réseau GSM au CCC, un festival qui a lieu en Allemagne en hiver. Et voilà, ils ont internet, ils ont une piste d'aéroport.
Ouais, il y a un aéroport.
On peut atterrir, il y a des, y a des vols à gagner, il y en a un par jour pour survoler et se faire parachuter au-dessus du site du festival. La queue est longue, hein. Faut être motivé.
Et parmi les 10 principes là, dont on parlait tout à l'heure du Burning Man, le deuxième c'est le gifting, donc c'est le fait de faire des cadeaux sans attente de retour ou d'échange pour quelque chose de la même valeur.
Donc, c'est un fonctionnement vraiment en économie du don.
Ce qui, oui, voilà, le don.
Voilà, c'est vraiment l'économie du don. C'est, chacun vient avec un petit surplus, va aider le voisin et rien ne se vend.
Et si on va aller au Burning Man, nous, petits Français, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?
Alors, ça demande pas mal d'organisation, voilà. Donc, la première chose, c'est d'acheter un billet pour le Burning Man.
Donc,
pour
2013,
pour cette année, c'est peut-être... il va s'en vendre en toute dernière minute, mais là, du coup, c'est le billet d'avion qui va être compliqué, peut-être. Ouais. À moins que vous gagniez au loto, essayez toujours. Voilà, je pense que ça ne concernera qu'une minorité.
La destination, c'est Las Vegas ?
La plus proche, c'est Reno, géographiquement. Reno. Après, en termes de coûts, en partant d'ici, le plus simple, c'est probablement San Francisco, puisque j'aurais tendance à dire que Las Vegas est plus cher, et puis une grosse communauté sur San Francisco, donc c'est plus facile de trouver des gens qui vont faire le trajet, avec qui partager des véhicules, se joindre à un camp là-bas.
Et quand tu dis prendre ton billet pour le Burning Man, c'est-à-dire que c'est quand même un festival où il faut acheter son ticket pour,
Tout à fait.
D'accord.
Le coût est parfois assez contesté parce que ça reste, élevé, oui et non, ça dépend à quoi on compare. Pour certaines personnes, ils vont estimer que c'est élevé pour un festival où on ne paie pas les artistes, ils ne sont pas rémunérés du tout. Ils touchent éventuellement des bourses pour l'œuvre qu'ils produisent, pour les matériaux, mais ils ne seront pas rémunérés pour leurs prestations elles-mêmes, le travail intellectuel ou artistique fourni. Je m'étais un peu intéressée à la question. En fait, une grosse partie du coût, c'est que le festival paie le droit d'avoir lieu sur les terres où ils sont, qui sont une réserve indienne et un terrain protégé. Donc il y a une grosse partie du budget qui va là-dedans et une grosse partie du budget qui va dans les toilettes.
Les latrines.
C'est ça, ce sont des toilettes chimiques, puisqu'on ne peut pas laisser de choses sur place, donc il faut que ce soit rembarqué, ça aussi. Donc il y a une grosse logistique d'amener des toilettes et de les rembarquer à la fin de l'événement.
Ouais, le billet pour la semaine est à 300 euros.
Ah ouais, c'est ce que j'avais demandé comme question. 300 euros quand même pour une semaine.
Mais bon, une semaine de camping à la Bourboule, voilà,
c'est 300 euros aussi.
C'est beaucoup plus de 300 euros.
Le boom dont tu parlais, c'est très cher aussi, tu tombes vite dans ces prix-là aussi au final. Hein.
Ouais. C'est vrai.
Donc c'est quand même un festival pas pour c'est pas un truc pour les pauvres, quoi. C'est pas un festival pour les prolétaires quand même.
Je dirais qu'en venant d'Europe, non, parce qu'il y a le prix du billet d'avion essentiellement.
Ça fait plaisir, quoi.
Parce qu'après il y a une possibilité de demander des entrées pour les gens qui ont moins d'argent, ils doivent en justifier. Alors j'avais regardé aussi ce qu'étaient les conditions, il faut fournir un certain nombre de papiers, je sais pas si les papiers qu'on peut avoir en français pas traduits, comment ils gèrent ça, ça doit être faisable, puisque j'ai rencontré des gens qui avaient demandé ces entrées qu'ils appellent low income, pour les gens qui ont donc un faible revenu, et là ça doit revenir à moitié moins, à 150 euros la semaine, mais bon, ça enlève pas le prix du billet d'avion, donc si on est honnête, depuis la France, oui, ça demande un budget. Ou alors il faut être en tour du monde et puis essayer de l'inclure dedans.
Parce qu'une fois arrivé à San Francisco, il faut trouver une voiture ou mieux un camping-car, si on veut se la jouer luxueuse, une semaine de nourriture. Bon, c'est un budget à 2000 euros, quoi, on va dire.
Je dirais que c'est un budget à 2000 euros. Je m'en étais tiré à 2000 euros, je dirais, quand je l'avais fait.
Mais sans le camping-car
Je m'étais joint à des gens, donc j'avais voyagé avec deux bus qui roulent au Biofuel, qui était une association qui sillonnait les États-Unis pour faire de la sensibilisation à l'environnement. Et j'avais juste financé mon voyage et campé avec eux, donc ça dépend de la façon dont on le fait. On peut même le faire sur du très, très hardcore. J'ai un ami qui a un jour essayé de le faire en stop. Il m'a dit que c'était compliqué. Pas parce que les gens ne voulaient pas prendre les gens en stop, mais parce qu'en fait, ils ont souvent déjà des véhicules tellement pleins avec tout leur matériel qu'ils ont du mal à prendre un autostoppeur en plus.
D'accord.
C'est quoi les dates alors, pour rappeler, le Burning Man cette année, c'est du...
Alors en général, c'est toujours autour de la première semaine de septembre, parce qu'il y a un jour férié aux États-Unis, je crois que c'est le 4, mais je voudrais pas dire des bêtises.
Cette année, c'est du 26 août au 2 septembre.
Ah bah alors ça doit pas être le 4, mais il y a un jour férié dans cette période-là.
Ça doit être le week-end d'après.
C'est le premier lundi de septembre, je crois.
C'est peut-être
le premier jour de
voilà,
septembre.
Voilà, ça doit être ça.
Ouais. Donc le 2, ça tombe un lundi. Ouais. La fin du festival, c'est ton maladie.
Voilà. Et donc, ouais, c'est le festival, c'est aussi le gros truc, c'est de brûler le Burning Man, vu que ça parle, t'en as pas parlé.
Oui, c'est vrai. Pourquoi le nom, effectivement, du Burning Man ? Parce que le festival est parti d'un groupe de gens qui se sont, qui un jour ont monté une effigie en forme d'homme en bois sur une plage de San Francisco. Ils l'ont brûlé, ça a attiré des gens, ça a plu, ils l'ont renouvelé d'une année sur l'autre. Et puis à un moment ou un autre, ça a un petit peu grossi, ils ont eu envie de le délocaliser, et ils l'ont délocalisé dans le désert où ça a lieu aujourd'hui. Et donc cette effigie du Burning Man, c'est la plus grosse structure qu'il y a sur le site. C'est la structure centrale, donc c'est aussi le point de repère dans cet environnement... un petit peu déroutant, où finalement on est en plein désert, donc c'est très ouvert, on a peu de repères. Et donc il est brûlé l'avant-dernier soir.
D'accord.
Voilà. Et une autre grosse structure, c'est le temple. Tous les ans, depuis quelques années, ils construisent une structure qui s'appelle le temple, qui elle est brûlée le dernier soir, où les gens vont venir souvent se recueillir... prier, laisser des petits mots, ils y mettent beaucoup d'intention, et j'avais été très surprise par l'intensité qu'il y a dans cette structure et l'intensité au moment où elle est brûlée. Quand quand on brûle le man, c'est une énorme fête, il y a beaucoup de pyrotechnie autour, de jongleurs de feu, de spectacles d'organisés, de feux d'artifice qui sont tirés. Et par contre, quand le temple brûle, il y a un silence absolu. Et il n'y a peut-être pas les 50 000 personnes du festival, mais quand bien même ce serait 30 000 personnes et pas un bruit, j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant.
Et donc, il va y avoir un projet français. C'est ça, le projet Core que tu portes.
Oui. Je
fais partie de l'équipe.
J'ai tendance à estimer qu'on fonctionne pas avec un chef, mais qu'on est une équipe. Donc non, je ne me positionnerai pas en représentante exclusive. Oui, alors ce sera la troisième année qu'il va y avoir ce qu'ils appellent les CORE, c'est un acronyme pour Circle of Regional Effigies, le cercle des effigies régionales. Et l'idée, c'est que Burning Man, c'est un mouvement qui est un petit peu en train de gagner ailleurs dans le monde. Il y a l'Africa Burn en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Kiwi Burn en Nouvelle-Zélande. Il y en a un en Australie, je ne retrouve pas le nom. En Europe, on a le Nowhere qui est début juillet en Espagne. Et c'était de célébrer un petit peu ce côté communauté qui est en train de s'étendre en proposant des espaces pour les équipes... régionale pour mettre en place des structures autour du MAN. Donc ce sont des structures qui sont vouées elles aussi à être brûlées le, je pense, quatrième ou cinquième jour du festival.
D'accord. Mais ici, du coup
ouais. Non.
Enfin,
c'est...
selon les endroits.
C'est des équipes qui sont portées... Enfin, ce sont des structures, des installations artistiques qui sont portées par des équipes liées à chaque fois à une communauté, donc à un pays.
Mais là-bas, du coup.
Mais là-bas.
Ah, ok. Ouais. C'est un peu genre des teams, quoi. Des teams de brûlage.
Oui.
Ok. Ok.
Et donc, vous y allez, vous, juste avant, pour construire une structure. Donc, j'ai regardé, c'est un escalier. Stairway to Heaven.
C'est une espèce d'escalier, mais les marches font peut-être un mètre de hauteur, donc ce ne sera pas tout à fait un escalier. C'est un peu plus sexy que ça, quand même.
D'accord.
Hein. Oui, et donc, on va y aller probablement vers... entre le 10 et le 15 août, je pense, selon les gens, selon la possibilité qu'on aura d'utiliser un atelier. On a démarché un atelier à Reno qu'on va pouvoir utiliser, qui a été monté par des burners et qui a pas mal de matériel, puisque vouloir tout construire ici et l'amener, ce serait probablement très cher et très contraignant. Donc le choix qu'on a fait nous concernant, c'est de dire qu'on achète les matériaux sur place, qu'on va construire sur place, préassembler dans l'atelier, tester, aller sauter dessus, vérifier si ça tient, parce que le Burning Man, il faut savoir que les gens aiment beaucoup monter sur les structures, donc il faut qu'elles soient costauds. Et puis on le démontera, on l'amènera, on le remontera sur site.
D'accord. Et là, actuellement, vous cherchez un financement pour financer
Oui, on a, pour l'instant, on a monté un Kiss Kiss Bang Bang. On montrera probablement quelque chose aussi pour récolter de l'argent aux États-Unis, parce que Kiss Kiss Bang Bang, ça marche plutôt en France. Mmh. Et donc, voilà, on a un appel à dons pour tous les gens qui seraient intéressés, qui souhaiteraient nous soutenir. Après, le soutien, ça peut être aussi du soutien sur des coups de main. Là, je pense à tout ce qui est communication. Est-ce qu'il va être aussi peut-être justement structurel? On se disait qu'on va peut-être quand même bien faire vérifier la structure. Donc, si on trouve quelqu'un qui sait nous faire des notes de calcul pour prouver qu'on a bien dimensionné tout ça. Parce que... alors, le ticket de Burning Man... décharge Burning Man de toute responsabilité, mais ne décharge pas les artistes de la responsabilité de leur installation.
D'accord.
Voilà.
Ouais, ce serait un peu bête.
C'est ça. La prison américaine, je pense qu'aucun de nous ne veut tester.
Je ne sais plus ce que je voulais poser comme question.
Donc j'ai retrouvé le lien du Kiss Kiss Bank Bank de French Color Project. Vous pouvez le retrouver sur canalsud.tetalab.org.
Ok. Bah, du coup, on va
avec les, une petite du projet et tout ça.
D'accord. On va se faire une petite pause. Allez, go.
Spider-Man 3, dinosaurs are in the film. It's a film about dinosaurs. It's called Jurassic Park, even though most of the dinosaurs in it are actually from the Cretaceous period. But it doesn't bother me that there's a few inaccuracies, speaking paleontologically, because I suppose no one really knows all that much about. Montesaurus, Micropachycephalosaur, Iguanodon, Triceratops, Gallimimus, Pterosaur, Proconcygnathus, they're the little ones from the Lost World. The ones that eat that guy in the river cause he tases their herd. Velociraptors are one of the most famous, cause they're really intelligent and they're scary and dangerous, and they hunt with their neighbours. But since Jurassic Park was made, apparently they've decided that they weren't all that clever, and instead of scaly leather they were covered in feathers like a bird.
Keytar. Tyrannosaurus is my favourite dinosaur. He'd win in a fight with anyone, he is the best of them all. Except in the third film, there's that master Spinosaur, who kills that T-Rex in the forest, but that wouldn't really happen, I am sure. So in conclusion, I can't wait for Jurassic Park 4. I just hope Jeff Goldblum's in it and Richard Attenborough.
De retour, il nous reste 10 minutes, c'était Brett Domino avec une reprise que j'adore de Jurassic Park, vous l'aurez reconnu. J'ai retrouvé ma question, oui. C'était Will Nowhere, puisque c'est un festival qui est pas loin. Finalement, c'est à quoi, oui. À 2 heures de route, 3 heures?
Je dirais plutôt 4 heures.
4 heures.
Il faut traverser les Pyrénées, c'est à côté de Saragosse, dans le désert de Monégros, que certains d'entre vous connaîtront peut-être s'ils ont regardé tous les westerns spaghettis de Sergio Leone.
Ouais.
Le bon, la brute et le truand, voilà, ce genre de choses. En fait, c'est exactement ce décor-là, le nowhere. Et donc, c'est beaucoup plus petit. C'est, ouais. Ce sont des burners qui ont eu envie, à un moment donné, de créer quelque chose en Europe. C'était à peu près 1100-1200 personnes, je crois, l'année dernière. Et cette année, ça risque de grossir, puisque ça avait déjà doublé l'année dernière par rapport à l'année d'avant. Et ça va être la 10e année du festival.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est différent, à mon sens, du Burning Man. C'est exactement les mêmes principes de départ, donc pas de commerce, pas laisser de traces, participation radicale, inclusion radicale, pas de spectateurs, tout le monde est participant. Comme c'est beaucoup plus jeune et plus petit, les installations sont pour l'instant plus modestes aussi. C'est dans le désert en Espagne, donc il est interdit de faire du feu. On a un petit passe-droit, mais sur une zone très limitée. Donc ça change, il n'y a pas le niveau artistique en feu qu'il peut y avoir au Burning Man. Qui
pour toi, le feu, ça a l'air quand même assez important,
j'aime
Burning
beaucoup,
Man.
Ouais. J'aime beaucoup, mais disons que j'ai vu du jonglage de feu, j'aime beaucoup, et à Toulouse, on a quand même un bon niveau avec tout ce qui peut se passer en cirque à Toulouse. Mm. Et j'ai vu des choses là-bas que j'ai vu nulle part ailleurs. Hein.
D'accord.
Il y a un côté, ouais, un peu païen avec les flammes, tu sais, les fêtes de Saint-Jean.
Ah, puis on brûle un temple, enfin oui, le Burning Man a ce côté un peu païen, avec plein de courants spirituels chez les gens qui se mélangent. Il y a un peu cette mouvance-là aussi au sein du festival.
En France aussi, on a la fête de Saint-Jean.
Oui.
On crame plein de trucs tout le temps.
Enfin maintenant, c'est la, ouais, fête de la musique en général, on crame, oui, plutôt nos neurones. Mais...
ou des voitures dans les cités.
C'est vrai. Ça, je croyais, aussi, ça c'était le 31 décembre, je croyais.
On a une longue tradition de cramer les choses en France.
Il y a aussi des Burning Man en France. Hein. Ouais, on va pas l'oublier. Hein.
Le Burning Man du Mirail. ouais, et c'est combien le billet pour aller au Nowhere?
Alors, je crois que cette année, c'est... Oh, je sais plus, j'aurais tendance à dire 95 euros.
Ouais, c'est beaucoup plus abordable que d'aller au Burning, oui, Man. Et donc, tu m'avais dit, plus une ambiance famille, quoi. On retrouve des gens qu'on a vus au Burning Man ou...
Pour moi, c'est plus familial, pas forcément dans le sens venir avec des enfants.
Oui.
Ça, c'est un choix très personnel et je ne m'engagerai pas là-dessus. Chacun.
Il y a des gens qui amènent des enfants au Burning Man.
Ah oui, tout à fait, en fait. Au Burning Man, il y a même un espèce de petit système de signes pour, sur certains camps, signifier que c'est interdit aux enfants, sur des, d'accord, choses qui pourraient être un peu trop explicites.
La drogue, le sexe.
Exactement.
Pour être clair.
Voilà, exactement. Et puis il y a un camp spécifique pour les familles aussi au Burning Man.
D'accord.
Avec plein de choses pour les enfants.
Il y a des Roland New Wave quand même.
Deux ?
Il y a des Roland New Wave quand même au Burning Man. En fait, c'est un petit peu la génération New Wave des États-Unis qui s'approprie un petit peu ce festival ou...
Pour moi, il y a vraiment de tout. On peut trouver un peu toutes les mouvances, vraiment. Mm. Ça va des geeks de la Silicon Valley aux hippies californiens cultivateurs de bœufs aux punks, à l'anarchiste. Enfin, il y a vraiment, vraiment de tout. Et je pense même des personnes plus classiques.
Sérieuses, on va dire.
Oui, enfin, sérieuses. Autant qu'on peut l'être en allant dans ce genre d'endroit, mais oui.
Comment ça se passe avec l'État? Ça se passe bien? Les forces de répression autour justement de la drogue.
Tout du coup, on est reparti sur le Burning Man. Okay.
Oui,
pardon.
Il y a des systèmes en fait de patrouilles sur site qui sont organisés par l'État et d'autres qui sont organisés en interne par des volontaires de Burning Man, ce qui permet de limiter un petit peu le besoin déjà pour l'État d'envoyer des gens. Et puis de gérer déjà des premières choses, des premiers secours, régler les petites choses. Après, oui, il peut y avoir quand même du contrôle.
Ah ouais.
Il y en a un petit peu. C'est pas énorme, mais sur certaines choses, il vaut mieux être discret quand même. Mmh. Voilà, il rappelle que c'est que la drogue est totalement interdite dans l'état du Nevada, et il faut pas oublier qu'en fait elle est autorisée pour le cannabis juste à côté en Californie, donc il y a un certain nombre de gens qui ont tendance à l'oublier, et ça, ça peut causer de petits soucis à certaines personnes. Ouais.
Très bien.
Il y a beaucoup d'arrestations chaque année ?
Non, c'est pas énorme, et puis il y a un espèce de système de solidarité entre burners aussi, donc il y a des burners qui sont des personnes qui sont dans le droit, dans leur professionnellement, dans ce domaine-là, et donc il y a des espèces de petits comités pour défendre aussi les burners après, une fois qu'ils se retrouvent à passer en justice après le festival.
Mmh. Bon, enfin, vaut mieux pas que ça...
Il vaut mieux pas que ça arrive.
Ouais. D'autres questions ?
Non, moi, pour ma part, c'est tout.
Bon.
Merci bien.
T'as des questions, toi ? Il y a eu des questions sur le pad.
Il n'y a pas eu de questions sur le pad.
On a un agenda.
On a un agenda. Oui.
Il y a une soirée ce soir, logiciel libre, non ?
Oui, il y a tout libre ce soir.
D'accord.
Il y a des comptes rendus de stage qui ont été effectués à Terre Neutrale. Donc tout libre, ça se passe au centre culturel de Bellegarde à partir de... Attends, je vais vous retrouver l'heure. Donc c'est deux stagiaires de chez Terre Neutrale qui vont parler... Alors, c'est à partir de 20h, et c'est quatre étudiants dans STRI à l'Université Paul Sabatier qui vont présenter les résultats de leurs travaux d'études et de recherche en collaboration avec l'association Theta Neutral. Le premier sujet porte sur l'interopérabilité, merci, et performance de matériel radio 5 GHz des fabricants Ubiquiti et Mikrotik. Et le deuxième sujet, c'est... un maquettage en machine virtuelle KVM sous libvirt et OpenSwitch.
En français, ça donne quoi ?
C'est
très compliqué.
C'est de la machine virtuelle. Et test des protocoles réseau BGP et OSPF, tels qu'implémentés par le logiciel libre Bird.
Ah, Bird, ça je connais.
Et il y a la réunion du Theta Lab, comme tous les mercredis soirs.
Voilà, comme tous les mercredis soirs, à partir de 21h. Donc si vous allez à tout libre, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui vont au Theta Lab juste après. Pour nous rencontrer, parler des projets qui sont en cours au Theta Lab, rencontrer des gens qui sont en train de faire des projets, parler de vos projets si vous en avez, parler d'Arduino, parler des choses dont vous avez envie de parler autour d'une bière.
Je peux initier une question presque systématique à la fin du Theta Lab, parce que maintenant je suis là. Mm-hmm. Quand est-ce que le système informatique s'écroulera ?
Tout à l'heure.
J'en sais rien du tout, ça c'est une question un peu compliquée là, au débeauté, je n'en sais rien.
D'accord.
Je pense que l'humanité sera partie quand Skynet arrivera, quoi.
On est à quelle heure sur l'horloge ? Tu sais, une horloge scientifique, on est à minuit moins 5 ou un truc comme ça là.
Ah ouais ?
C'est une horloge où chaque année ils décident de rajouter ou d'enlever une minute suivant l'état de la planète et des choses comme ça.
Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Oui.
Voilà, dans 5 minutes peut-être.
Il ne reste que 5 minutes alors.
Voilà, bah, on va se dépêcher alors. merci à tout le monde. Et on se retrouve le mois prochain. Je serai pas le premier mercredi du mois. Il n'y aura pas de problème, je pense, cette fois-ci.
Ouais, on sera le 3 avril.
Voilà, et bon, 3 avril.
Ok, rendez-vous au 3 avril. Merci.
Merci
à tous. Voilà donc Theta Lab qui s'achève. Vous êtes toujours donc à l'écoute de Canal Sud 92.2. Ne pas oublier le point 2, sinon on tombe sur des fréquences qui font. Voilà donc c'était l'heure du magazine, midi 14h, il est déjà 14h. Et donc du coup, on vous rappelle que vous avez quand même rendez-vous aujourd'hui avec Canal Sud pour. Des émissions telles que Les Petits Papiers, notamment Fatima qui va venir nous parler, je crois, encore une fois, un peu de la ZAD, mais aussi d'autres choses. Je ne sais plus tout à fait de quoi il s'agit, mais vous n'avez qu'à rester à l'écoute pour savoir de quoi il en retourne. C'est à partir donc de 17h. Pour être précis. On se retrouve aussi, nous, à partir donc de 19h pour l'émission de Réminiscence, nouvelle émission consacrée à l'agenda culturel, militant et politique et surtout à un point d'actualité qu'on va essayer de regarder, de scruter, de vérifier à la loupe de la musique. Voilà. Et puis sinon, vous avez toutes les informations sur canalsud.net, hein, le site internet. On vous rappelle que vous pouvez aussi écouter la radio sur ce site. Voilà, une émission de reggae à partir de 20h aussi. Voilà, reggae show, et puis bah, place à la programmation musicale de notre chère onde Canal Sud 92.2. À plus tard, restez à l'écoute. De toute façon, il fait froid, il n'y a rien d'autre à faire que de rester chez soi.